Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Bibibi binge audio, big podcast only.
Vraiment, toute ma vie a été définie grâce ou à cause de Skyblog, en fait.
Les blogs, version moderne du journal intime. Pas si intime que cela d'ailleurs, puisque d'un simple clic, le monde entier peut le lire.
Grâce aux nouvelles technologies, la société communique de plus en plus et tous azimuts. Comme le dit Pierre Bélanger, il n'y a plus de piédestal, il y a des arènes.
Le blog concerné n'est plus en ligne, mais les dégâts sont faits. Un élève de 15 ans du lycée Renoir a été exclu définitivement pour avoir publié sur Internet des dessins et des propos insultants envers deux professeurs.
Des ados stupides et narcissiques.
Je m'appelle Guillaume Bléron, j'ai été chez Skyrock de 2005 à 2009 et j'étais administrateur système et réseau. Je suis arrivé parce que un copain m'a appelé un jour en me disant ouais Guillaume, si jamais tu cherches du boulot, je travaille chez Skyrock, là on est un peu débordé, j'ai besoin de bras. Donc voilà, viens jeter un œil, l'ambiance est sympa, tu devrais venir. Moi j'étais en SS2I, je m'amusais pas du tout à ce moment-là, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et puis je suis arrivé en entretien d'embauche. Le jour de mon entretien d'embauche, au moment de me présenter devant la porte, il y a les vigiles qui m'ont fait reculer parce qu'il y avait Maria Carré qui sortait des studios. Et j'ai tout de suite été mis dans l'ambiance, c'était assez rigolo. Et dès l'instant où je suis arrivé, en fait, j'ai compris qu'on allait sans arrêt courir pour trouver des solutions parce qu'on était complètement dépassé par les événements, quoi.
Quelques années après leur lancement, les Skyblogs règnent sur le web français. En 2005, 82% des moins de 24 ans déclarent avoir un blog. Skyblog n'est pas la seule plateforme dédiée aux blogs, mais elle est de loin la plus populaire, devant des sites comme MSN, Overblog, MySpace ou Blogger. Le phénomène se développe partout en France.
Les Skyblogs se sont développés partout sur le territoire français, effectivement. Pas plus spécifiquement en ville qu'à la campagne.
Hélène Delaunay-Téterel, sociologue.
J'ai réalisé en fait des entretiens et des observations donc de Skyblog à la fois dans des grandes villes et à la fois à la campagne également. Je suis retournée dans mon lycée de province en Normandie, voilà, tout à fait un lycée de campagne entre guillemets, et les blogs étaient tout à fait présents tout autant que dans les grandes villes. C'était davantage des filles que des garçons, mais il y avait quand même des garçons. Collégiens et lycéens, fin collège et lycée. Après le baccalauréat, souvent ça s'arrêtait. Et pourquoi ça s'arrêtait ? Parce que je pense que les usages des Skyblogs étaient vraiment liés à la vie adolescente et à la sociabilité adolescente qui tourne autour du collège et du lycée.
C'était horrible. C'était horrible.
Guillaume Bléron, ancien des Skyblogs.
En fait, non seulement c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de gamins qui postaient sur les blogs, mais en plus ils le faisaient tous à la même heure en sortant de l'école. C'était horrible. Donc bah, c'est pour ça qu'on avait adapté nos horaires de bureau un peu en fonction de ça. Donc personne n'arrivait avant 11h du mat chez Skyblog. Et on repartait vers 20h30, 21h, ça dépendait des fois. Et donc on passait notre temps à racheter des machines. Voilà, je suis arrivé, on avait une dizaine d'armoires remplies de serveurs. Et quand je suis reparti, on avait acheté toute la salle, enfin on avait loué toute la salle. Donc il y avait des dizaines et des dizaines d'armoires remplies de serveurs. Puis bah, le soir, c'était pas rare de revenir au boulot pour redémarrer une machine parce que voilà, on était un peu à l'arrache, on pouvait pas faire ça à distance. Et puis bah, le problème, c'est que c'était dans les locaux de la radio. Et Skyrock, le soir, devant la radio, c'est blindé de types. Il y a des types qui attendent de pouvoir soit casser la gueule à l'animateur, soit de pouvoir voir l'animateur. Voilà, ils attendent, ils sont là, ils fument des pètes, ils écoutent de la musique. Voilà, c'est là. Voilà. Et donc, bah, le soir, quand t'es arrivé en astreinte, tu te pointais, t'avais une cinquantaine de types devant la porte. Tu te mettais derrière, t'essayais de faire un coucou au vigile serbe qui gardait l'entrée. Et puis le mec passait, il arrivait avec ses 2 mètres de haut, il ouvrait la porte, il bougeait tout le monde en un geste, il faisait rentrer. Et puis là, tu te retrouvais dans les locaux de la radio. Et puis une fois passé ce premier checkpoint, tu entrais dans l'ascenseur. Alors de temps en temps, t'avais des types qui en sortaient avec un nuage de weed en même temps. Tu rentrais là-dedans, tu montais au deuxième et t'étais ça y est, tu planais tout de suite quoi. C'était impeccable. Donc fallait pas se gourer en rebootant la mauvaise machine. Mais voilà, c'était souvent comme ça.
L'explosion soudaine des Skyblog dépasse complètement Skyrock et ses équipes techniques. Mais pas que. Du jour au lendemain, certains utilisateurs et utilisatrices deviennent des vraies stars en ligne. Une après-midi, je me suis rendue au restaurant Mother, à Boulogne-Billancourt, pour y rencontrer sa chef de cuisine. Elle s'appelle Nathalie Nguyen, et quand elle était adolescente, elle était l'autrice d'un Skyblog très populaire. Peut-être même que vous l'avez consulté. Il s'appelait « Toucher Terre ». Nathalie Nguyen a tellement marqué les Skynotes que quand elle est passée à l'émission Masterchef en 2011, des gens l'ont reconnue grâce à son ancien blog.
Je pense de mémoire que j'avais 16 ans et je sais que j'avais une certaine frustration en moi. J'avais envie de créer, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de prendre des photos. La musique tenait une place très 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 importante aussi dans ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de réunir les trois dans ce Skyblog. Je racontais mes histoires de cœur, qui forcément étaient très tristes à cet âge-là, sinon ce n'est pas drôle. Non, c'était vraiment, je me dévoilais beaucoup. C'était forcément les premiers débuts du selfie, donc je me prenais beaucoup en photo. Je me montrais dans des positions qu'en aucun cas je voulais que mes amis, mes camarades de classe me voient. Enfin, c'était complètement égocentrique et tournée vers moi-même, pour moi. Je suivais la blogueuse numéro 1 de l'époque, qui s'appelait Vierge quelque chose. C'était quelqu'un qui avait un esprit très torturé et qui racontait de très belles choses sur elle. Et je lui avais écrit un commentaire. Cette personne m'a remarquée, je ne sais pas comment, et en fait, elle a écrit un post sur moi en disant « Suivez Toucher Terre, c'est sympa ce qu'elle fait ». Et le fait qu'elle m'ait mise en avant... je suis devenue la première et je l'ai dépassée à cette époque. C'est assez incroyable hein, parce qu'il y avait très peu de choses à l'époque à regarder sur Internet et Skyblog, c'était certainement un des premiers réseaux, enfin voilà, un des premiers sites Internet qui marchait le plus. Dès qu'on arrivait sur le site de Skyblog, on voyait mon nom. C'était assez impressionnant, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a commencé à me reconnaître dans la rue, à me dire « mais est-ce que c'est toi, Toucher Terre ?» Est-ce que c'est... Et c'était vraiment, vraiment impressionnant. Moi, j'étais vraiment, encore une fois, dans une démarche tellement... j'étais cachée dans ma chambre le soir pour écrire et me dire que voilà... que j'étais entre guillemets reconnue pour ça et j'étais gênée que c'était pour quelque chose dans laquelle je me cachais en fait. Donc c'était quelque chose de très particulier et je sais que même jusqu'au bout, jusqu'à la fin de Toucher Terre, je n'ai jamais été vraiment à l'aise d'être connue pour ça. Parce que je montrais quelqu'un de fragile, je montrais quelqu'un qui avait beaucoup de peine, alors que moi, la Nathalie que je voulais qu'on voit dans la rue, c'était quelqu'un de joyeux. Et voilà quoi, je ne voulais pas que cette facette soit vraiment particulièrement connue.
Après Après Nathalie, je suis retournée à Paris pour discuter avec Tiffen. Elle aussi, vous la connaissez peut-être déjà. Son pseudo, c'est Cuillère à absinthe. Elle a eu un skyblog pendant des années, qui était dédié à la photographie et à la mode. Aujourd'hui, elle travaille dans le luxe.
Je me souviens que le premier article sur Blog Mode, je m'excusais un peu, tu vois, d'ouvrir un blog comme ça, parce que j'avais peur que les gens considèrent que ça soit pris un peu comme un truc égocentrique, que tout d'un coup je me kiffe tellement, que la fame m'est montée à la tête, alors tout d'un coup je décide de m'exposer. Et c'est vrai que comme avant, on prenait, les photos qu'on voyait de gens qui étaient habillés avec des tenues qu'on essayait de copier, c'était les stars, ça paraissait vraiment étrange en fait de faire ça. Et la plupart des premières blogueuses mode coupaient leur tête aussi, parce qu'il y avait vraiment ce truc de pas s'afficher. Je me souviens encore de ma tante qui me disait « Mais c'est dangereux, il faut surtout pas que tu fasses ça, il faut pas s'exposer sur Internet. » Mais bon, après, effectivement, les gens se sont habitués à cette... Tout le monde le fait maintenant, mais à l'époque, ouais, il fallait un peu dire « Bon, bah ok, salut, je suis là, voilà quoi je ressemble, et puis tous les jours, je vais vous montrer comment je m'habille.
» L'une des raisons pour laquelle j'ai voulu te contacter, c'est que toi, tu as eu une expérience assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a la télé qui est venue chez toi faire un reportage sur toi et sur ton skyblog de l'époque, donc le deuxième, du coup, Cuillère à absinthe, qui est encore ton pseudo aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu as réagi le jour où tu as reçu ce mail, j'imagine, ou ce coup de téléphone qui t'a annoncé que M6, voulait débarquer chez toi, et ton expérience de ce reportage, justement?
Bah, c'était un peu étrange parce que finalement, même si j'avais une sorte de petite fame sur Internet, ça changeait rien à ma vie au quotidien. Ça veut dire que je continuais d'aller au lycée, je faisais mes études de photo, etc. Et puis effectivement, quand j'avais reçu ce mail à l'époque, et encore toujours, je ne regarde pas la télé, et donc je ne savais pas ce que c'était le reportage 66 minutes en question. Et je me souviens vraiment être allée voir mes parents et leur avoir dit « Bah voilà, j'ai reçu un mail super bizarre, on veut faire un reportage sur moi, de quoi, comment, pourquoi ?» Et mes parents, ils ont ouvert des yeux, mais immenses, parce qu'eux, ils regardent la télé, ils savaient ce que c'était 66 minutes, et puis tout d'un coup, en fait, ça a pris une coloration pour eux qui était beaucoup plus... réel, c'était plus juste moi qui faisais mes petits trucs dans ma chambre sur Internet. En plus, j'étais limitée, j'avais droit qu'à une heure d'Internet par jour à l'époque parce que déjà, ils trouvaient que je passais trop de temps dessus, tu vois. Et donc là, en fait, ils ont un peu pris au sérieux finalement ce que je faisais, même s'ils ne le comprenaient pas tout à fait. Et puis quand M6 est venu, pour moi, c'était vraiment... Je savais pas très bien, en fait, le pourquoi du comment c'était tombé sur moi. Et puis, c'était vraiment un hobby. Donc, je comprenais pas que les gens viennent me voir en disant « Ouh, attention, qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois, c'est intéressant, on veut tout savoir. C'était vraiment très étrange.
La popularité des skyblogs attire l'attention des médias. Plusieurs politiques créent leur propre blog pour être plus proches des jeunes, ou en tout cas s'en donner l'image. C'est par exemple le cas de Ségolène Royal ou de Fadela Amara. Mais cette attention n'est pas toujours positive. En 2005, lors de ce qu'on appelle la crise des banlieues, qui fait suite à la mort de Ziyad Bena et Bouna Traoré, les skyblogs sont soupçonnés d'attiser les violences. La police réclame même à Skyrock de fermer une dizaine de blogs. Dans un tout autre registre, plusieurs cas de blogs insultants envers des profs défraient la chronique. On s'inquiète de ces jeunes qui écrivent en langage SMS, qui postent des selfies à longueur de journée, qui se mettent en scène en ligne. Bref, comme leurs parents avant eux, les adultes des années 2000 trouvent leurs ados stupides et narcissique.
Moi, j'ai bien observé qu'en fait, ils savent gérer les différents types de supports et du coup, les différentes formes de communication à utiliser en fonction du support. Et ce n'est pas parce qu'ils écrivent en langage SMS par SMS ou même sur les Skyblogs à certains moments qu'ils ne savent pas écrire, entre guillemets, correctement, de manière formelle ailleurs. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué et que j'ai trouvé fortement intéressant sur la catégorisation des contenus, en fait, sur les Skyblogs. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les catégories de contenus relationnels, c'est-à-dire les catégories d'amis et puis l'entretien de la sociabilité collective, là, on utilisait à foison le langage SMS. On ne faisait pas forcément attention. On était un peu comme dans l'instantané, quoi. D'accord ? Alors que pour les posts de type journal intime, ou enfin surtout journal intime, mais aussi sur les postes de type thématique, enfin culturel, etc., artistique, eh bien là, il y avait un soin particulier qui était apporté à l'écriture.
Malgré les moqueries et les inquiétudes, les Skyblogs sont en fait une plateforme très riche. Ils influencent la culture populaire française. Sans Skyblog, pas de tectonique. Plusieurs artistes s'y font aussi connaître, en publiant des enregistrements ou des clips amateurs, dans la pop, le R&B, l'électro, le rap...
Quand Skyrock lance Skyblog, bah voilà, Skyrock c'est la radio rap, donc pour les gens du rap c'est logique quoi.
Fif Tobossi, cofondateur de Bouscapé.
Il n'y avait pas que des gens du rap, mais les gens du rap se sont servis de ce canal-là justement pour diffuser un peu leur image, leur musique, parce que bah, c'était compliqué. Enfin, le rap ne passait pas en télé, en radio, enfin, ne passait pas partout comme aujourd'hui. Donc on est dans une époque où le moindre axe de communication est important. Donc ouais, les gens du rap se sont mis vite dessus pour pouvoir communiquer. Pas mal d'artistes qui sont des purs produits de Skyblog, entre guillemets. Kenza Farah, elle est, c'est elle qui représente le mieux, entre guillemets, l'artiste Skyrock, Skyblog, quoi. C'est parti de là-bas, ses blogs, elle a fait ses sons, ça a plu, ça a été pas mal commenté. Bah, le directeur des programmes, Laurent Bounot, en plus, lui, ça l'a arrangé parce qu'il était connecté. Il voyait que les Skyblogs qui montaient, qui étaient puissants et tout. Et quand tu avais un Skyblog qui remontait bien, qui était pas mal apprécié, lui, ça lui permettait de rentrer cet artiste-là en playlist. Donc, ouais, ça a beaucoup aidé sa radio pendant un moment. Ouais.
Le succès des Skyblogs attire aussi les appétits des investisseurs. La chaîne de télévision TF1 et la radio Énergie expriment leur intérêt pour la société parapluie qui contrôle Skyrock. Sans succès. Finalement, en 2006, c'est le fonds AXA Private Equity qui devient actionnaire à 80% de l'entreprise. Elle est désormais valorisée à 100 millions d'euros. C'est beaucoup pour une société dont le chiffre d'affaires est alors d'environ 31 millions d'euros. Mais les investisseurs croient au potentiel des Skyblogs. Ces derniers occupent une part de plus en plus importante dans les revenus de Skyrock. Surtout, leur croissance est bien plus rapide que celle de la radio. Guillaume Pléron, ancien des Skyblog.
La radio était au premier étage, et elle est toujours au premier étage, et nous on était au deuxième étage. Et on croisait régulièrement les gens de la radio. On ne se calculait pas trop entre la radio et le web. Ouais, il y avait une sorte de rivalité, ouais, c'est ça. Il y avait une rivalité entre les deux parce que bah, le web prenait de plus en plus d'importance et commençait à faire de l'ombre avec des gros guillemets à la radio. Un jour, il y a un câble sur lequel on faisait passer tellement de tension que la gaine du câble s'est vaporisée en une seule fois. C'est-à-dire que voilà, elle a disparu. Tout le courant a été coupé. Dans tous les locaux, la radio a été coupée. Le générateur au diesel s'est mis en route dans la cour. Donc on est rue Greneta, en plein milieu de Paris. Un générateur au diesel qui se met en route. Énorme nuage de fumée noirâtre qui déclenche l'alarme incendie. L'alarme incendie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe le courant. Donc voilà, double plantage coup sur coup. Donc ouais, on a fait pas mal de conneries.
Les Skyblogs ont le potentiel de devenir un géant du web. Et pas seulement en France. Un géant mondial. En décembre 2007, l'Institut américain Comscore estime l'audience mondiale de la plateforme à plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois. Les Skyblogs font partie des réseaux sociaux les plus fréquentés au monde. Parmi ces derniers, un site américain qui, depuis 3 ans, ne cesse de grossir. Il s'appelle Facebook. On en parle au prochain épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.